Très vile PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Les mythes et les complots avec Christian Page, l'insolite. Bonjour mon Christian.
Salut Bernard. Je suis pas si insolite que ça.
Mais non, je sais. Je blaguais. C'est vendredi.
Oui, bien sûr. Et juste avant un long congé, un long week-end de trois jours.
Oui, exact. Et là, le fameux manuscrit de Voynich aurait peut-être été enfin décodé, c'est ça?
Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur les ondes et ce n'est pas le recyclage d'une vieille nouvelle. C'est un truc qui vient tout juste d'être publié dans un magazine, en fait, qui s'appelle le Roman Studies.
Sérieux,
il s'agit des travaux menés par un chercheur qui s'appelle Gerald Cheshire, qui est un professeur de sciences à l'Université de Bristol.
Bon.
Et il nous parle donc de ce manuscrit de Voynich. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'est-ce que c'est ce manuscrit. On en fait un court historique. Le manuscrit, il est découvert en 1912. Il s'agit d'une découverte qui est faite par un antiquaire de livres de New York, Wilfred Voynich. Donc, il se promène à travers le monde, achète de vieux livres, de vieux manuscrits, et il apprend qu'en banlieue de Rome, des moines sont prêts à se départir de certains documents pour collecter de l'argent, colliger de l'argent pour pouvoir restaurer le monastère. Alors, il se rend sur place, achète une collection de vieux documents, de vieux manuscrits, et parmi ces documents, il y a un livre d'à peu près 250 pages. Le livre est un manuscrit, donc avant l'imprimerie. Le papier est un beau papier vélin, la couverture est relativement de luxe, donc c'est un très, très beau manuscrit. Il faut savoir qu'avant l'invention de l'imprimerie, les manuscrits étaient des objets de collection très, très rares. Quand on disait des nobles avaient de grosses bibliothèques. On parle d'une dizaine de livres seulement. Donc, c'est difficile de se rendre compte aujourd'hui à quel point le livre est devenu accessible, comment avant l'imprimerie, c'était une œuvre, c'était vraiment des œuvres d'art. Donc, ce Voynich trouve ce manuscrit, il le consulte, et ce qu'il constate, c'est que le document semble écrit dans une langue qu'il ne connaît pas. La langue ressemble étrangement à de l'arabe ou peut-être un peu du sanskrit. Alors, il se dit,
du
sanskrit, hein, l'ancienne écriture que l'on trouvait en Inde. Alors, il ramène le manuscrit à New York, le présente à des spécialistes, et là, c'est un peu la révélation. Ce manuscrit est écrit dans une langue inconnue qui apparemment n'a jamais existé. Il est fait en quatre sections. Dans une première section, on retrouve des plantes. Dans une deuxième section, des espèces de symboles astrologiques. Troisième section, on voit surtout des femmes dans des bassins avec des tuyaux qui unissent chacun des bassins. Et la quatrième partie semble être des recettes avec des racines. On voit des dessins de racines et de graines. Mais on est incapable de déchiffrer le texte. Et qui plus est, certaines des plantes ou certaines des graines dessinées n'existent pas.
Hein?
Alors, elles n'existent pas, elles n'ont jamais existé. Le manuscrit de Voynich devient une espèce d'obsession. À partir du moment où son histoire est révélée, tu comprends que les plus grands spécialistes en code secret, même incluant ceux qui ont réussi à déchiffrer la fameuse machine Enigma durant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été utilisée par les nazis pour coder des messages,
tous
ces gens-là se sont penchés sur le manuscrit de Voynich et se sont brisés les dents là-dessus.
Et on est sûr de son authenticité.
Absolument.
C'est certain, là.
Certain. Donc, le manuscrit, il est authentique. On sait également que l'écriture, même si on est incapable de la déchiffrer, on sait qu'elle répond à des règles de grammaire et de syntaxe. Donc,
C'est pas n'importe quoi.
Donc, l'auteur a utilisé une grille très spécifique au moment d'écrire le manuscrit de Voynich. À son décès, Voynich va donner le manuscrit à son épouse, qui, elle, va le donner également à son décès. Et éventuellement, pour faire une histoire courte, le manuscrit est aujourd'hui conservé à l'Université de Yale dans la collection des livres et des manuscrits rares. C'est la plus célèbre pièce qui se trouve dans cette collection, le manuscrit de Voynich. Et encore une fois, le manuscrit de Voynich continue, encore aujourd'hui, il continue de faire fantasmer les amateurs de codes secrets. Et c'est un peu cette étude qui est révélée dans le Roman Studies, cette étude menée par le professeur Cheshire, qui lui, dit-il, ne lui a fallu que 2 semaines pour percer à jour le code du manuscrit de Voynich.
Bon.
Et là, il soutient Et c'est là que ça devient... on peut se questionner. Il soutient que le manuscrit de Voynich, en fait, a été rédigé dans une langue qui s'appelle le proto-roman. Donc, c'est faux de croire que c'est une langue qui n'a jamais existé. Mais elle a eu une existence excessivement brève. Elle a existé alors que les langues populaires ont passé du latin vers les langues romanes, un peu comme le français, l'espagnol et l'italien. Donc, des langues romanes, pardon, qui se sont développées à partir du latin. Et donc, cette écriture, ce proto-roman, a eu une existence excessivement éphémère. Et c'est ce que soutient le professeur Cheshire, c'est de dire le manuscrit a été écrit dans cette langue et comme on n'a pas d'autres exemples connus parce qu'elles ont à peu près toutes disparu, c'est son hypothèse qu'il développe. Et là, il a élaboré une espèce de grille en s'appuyant sur des manuscrits écrits à peu près à la même époque qui, eux aussi, découlent d'une adaptation de cette écriture romane. La problématique, tu comprendras, Bernard, que pour l'instant, il n'y a pas eu des spécialistes dans l'histoire, des spécialistes d'écriture qui se sont penchés sur cette hypothèse. Il faut savoir que le Roman Studies est une étude sur l'écriture, sur la littérature, mais pas un périodique scientifique. Donc, il faudra attendre que des scientifiques se penchent là-dessus pour voir ce qu'ils en pensent. Mais il faut quand même dire que ce n'est pas la première fois qu'on prétend que le manuscrit de Voynich est décodé. En fait, tous les 2 ou 3 ans, je te dirais qu'on retrouve dans la presse quelqu'un qui affirme avoir décodé le manuscrit de Voynich.
Effectivement, ce qu'il dit est vrai, donc il a réussi à donner un sens à ce qui était écrit. Il n'a pas juste dit « Ah, c'est inspiré du proto-roman et voici maintenant ce que ça dit ».
Tu as tout à fait raison, Bernard, et c'est ce que j'allais te dire. Au moment où on se parle, il a réussi, semble-t-il, à déchiffrer une 20aine de mots. Dans le passé, des gens ont eu exactement la même prétention que lui, mais malheureusement, ce qui fonctionnait pour les 4 ou 5 premières pages ne fonctionnait plus 2 ou 3 pages plus loin. Donc, il faudra attendre davantage d'informations, voir comment les experts vont réagir à ça. Mais de prétendre qu'on a manuscrit, on a décodé le manuscrit de Voynich sur la foi d'une quelques mots qui semblent tenir la route, ça me paraît être excessif.
C'est prématuré.
C'est très prématuré, oui, absolument.
C'est très prématuré. OK, mais à suivre quand même. Parce qu'il y a eu des mystères comme ça dans l'histoire qui ont été finalement résolus. Il y a eu, notamment, il y a l'épisode par rapport aux hiéroglyphes. Là, à un moment donné, il y a eu une période de temps pendant laquelle on n'était pas capable de décoder certains textes. Et finalement, on y est parvenu. Il y a eu des exemples comme ça qui existent dans l'histoire.
Il y a des exemples. Et souvent, ces exemples-là arrivent de manière un peu, souvent par des amateurs. Hein. Je te rappellerai une histoire de crime célèbre qui s'est produit à la fin des années 60 et début des années 70 aux États-Unis. Les meurtres du tueur du Zodiac. Et le Zodiac envoyait à la presse des messages codés. Donc, il envoyait des lettres écrites en anglais, mais elles étaient souvent accompagnées de codes. Oui. Et au moment où les codes sont arrivés, tu comprendras que tous les experts du FBI ont planché là-dessus, essayaient de déchiffrer le code utilisé par le tueur du Zodiac. Et finalement, lorsque les codes ont été publiés dans la presse, ce sont 2 amateurs de mots croisés qui ont décodé le code, alors que tous les experts du FBI s'étaient un peu butés là-dessus. Donc, qui sait, peut-être que cette histoire du manuscrit de Voynich viendra par un scientifique, mais qui n'est pas forcément un spécialiste dans la cryptographie. Et attendons, c'est comme tu le dis, c'est à suivre.
Absolument. Bon, maintenant, il y a un nouveau rapport là, qui vient d'être publié sur les apparitions d'OVNI, c'est ça?
Les apparitions d'OVNI au Canada.
Sens-tu le scepticisme dans ma voix?
Oui, et sens-tu le scepticisme dans ma réponse? en fait, c'est un exercice qui est fait chaque année par un ufologue manitobain qui s'appelle Chris Rutkowski. Je dois te dire que je connais personnellement Chris Rutkowski. Ce n'est pas un illuminé. C'est un type excessivement sérieux qui ne fait pas dans le petit bonhomme vert et extraterrestre, mais qui s'intéresse beaucoup à la question des ovnis. En fait, il est impliqué là-dedans depuis presque 40 ans. Et donc, depuis 1987, il collige l'ensemble des observations d'ovnis rapportées au Canada. Et tu comprendras que c'est un travail collectif. Il ne le fait pas lui-même. Il sollicite l'intervention, la collaboration des groupes d'amateurs à travers travers le Canada pour qu'on lui envoie leur rapport d'observation et lui donc fait cette collecte de données. Il le fait depuis 1987. Donc cette année, c'est la 30e année de la publication de ces rapports. Et évidemment, comme chaque année, il y a de plus en plus de groupes à travers le Canada qui connaissent son initiative et qui envoient des rapports d'observation, bien, tu comprendras que d'année en année, il y a de plus en plus d'observations d'OVNI. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on se maintient aux alentours de 1000 observations d'OVNI par année. Donc, pour l'année 2018, on parle de 937 signalements rapportés à travers le Canada. Pourquoi je dis rapportés? Parce que selon les statistiques, il y aurait 10 fois plus de gens qui voient des objets, mais qui ne le rapportent pas. Donc, on n'a seulement que 10 % des gens qui rapportent les observations. Donc, 937 observations qui ont été signalées. Mm-hmm. Et encore une fois, et ça depuis plusieurs années maintenant, c'est le Québec qui tient le haut du pavé.
Société distincte.
À une société distincte, à nous seuls, on représente 41% des observations rapportées à travers l'ensemble du Canada.
Et si on parle lié directement à la consommation de potes, je pense.
C'est bien possible, Bernard, c'est possible. On est suivi, et de loin, on est suivi par l'Ontario qui représente 24% des observations d'OVNI. La Colombie-Britannique, elle suit enfin en troisième place avec 13% des observations d'OVNI. Bon. Si on regarde de manière un peu sur les positions régionales, si je puis dire, on a 84 observations qui ont été rapportées uniquement dans la région de Montréal, et 29 dans la région de Québec.
Okay.
Cela étant dit, il faut quand même savoir que les observations d'OVNI, c'est très souvent, pour la grande majorité, des lumières dans le ciel.
Oui, oui.
Donc, sans objet, sans nature exacte, que des lumières dans le ciel.
Dans le ciel ou dans la tête?
Et ça se produit, et peut-être faut-il y voir un lien, le meilleur moment pour observer des ovnis, c'est aux alentours de 21h au mois de juillet.
Ben là.
Écoute, Bernard.
Le vino aidant et un petit joint, peut-être.
Je ne suis que la courroie de transmission, Bernard.
Christian Page, bon congé, merci.
Merci toi aussi et bon vino.
Bon, merci à Marie Duchesneau, Alexandre Marcoux, Larry Dufresne, mon équipe, ma super équipe, mon adorable équipe. Et vous êtes mes adorables auditeurs. À mardi, tout le monde, Paul s'en vient. Bye.